À la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à 14h sur France Inter. Pendant une heure, une invitée revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Noémie Lvovsky. Bonjour Noémie Lvovsky.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Noémie Lvovsky, vous êtes cinéaste, réalisatrice, scénariste, actrice.
Oui.
J'ai rien oublié?
Non.
J'ai tout dit?
Oui.
Vous voulez rajouter quelque chose?
À ces trois...
Ouais.
Travaux?
Oui, à ces trois travaux. Rêveuse.
Oh, je ne sais pas me qualifier moi-même.
On va essayer de le faire pendant 7 heures.
Si vous voulez.
À travers votre journée particulière. Noémie Lvovsky, vous avez choisi comme journée particulière une journée... du mois de septembre 1982, vous ne savez pas dire la date précise, on sait que c'est un jour de septembre 82, c'est
oui,
ça?
Oui.
Et ce jour-là, vous mettiez pour la première fois les pieds sur un plateau de cinéma.
Moteur!
Annonce!
Formula, un deuxième, un troisième, un cinquième, septième.
Incomplète animation à la terrasse du café. Madame opticien, repartez. On resserre sur l'écran.
Coupé! On va la refaire en changeant d'objectif.
Oh, attention !
Noémie Lvovsky, vous. Vous voyez où on vous met déjà dès le début. Vous connaissez,
oui.
Vous reconnaissez.
C'est La Nuit américaine de François Truffaut.
Ouais.
C'est magnifique la radio. C'est magnifique les voix et les sons aussi sans l'image. C'est très très beau.
Ah oui, c'est beau. Et c'est des images, le son. Moi aussi, j'adore la radio. Vous connaissez ce film par cœur?
Je connais bien, bien, bien ce film, oui. Oui, je... Et entendre la voix de Truffaut, là, c'est quelque chose. Je me souviens que j'avais des photos au-dessus de mon lit que j'embrassais après avoir mis du rouge à lèvres. Et très jeune, j'avais des photos d'acteurs et d'actrices. James Dean ou Marilyn Monroe, et assez vite, quand j'ai, après avoir découvert Truffaut par baiser volé,
ouais,
j'ai accroché au-dessus de mon lit des photos de François Truffaut que j'embrassais avec du rouge à lèvres pour marquer ma bouche sur la photo. Et je lui ai même écrit une lettre d'amour.
Il vous a répondu?
Non, je crois qu'il était malade déjà. Enfin, il m'aurait peut-être pas répondu, il avait beaucoup de choses à faire.
Une vraie lettre d'amour, Noémie Lvovsky?
Ah oui, une vraie lettre d'amour. Pas une lettre de cinéphile, une lettre d'amour. Je voulais me marier avec cet homme.
Vous avez raison. Ben, on va vous faire plaisir encore une fois, alors.
Antoine Doinel, 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 Antoine Doinel.
Qu'est-ce que vous disiez?
Quel génie!
Ah oui, quel génie!
C'est Jean-Pierre Léo dans Baiser volé.
Et vous n'aviez pas, vous n'étiez pas amoureuse de Jean-Pierre Léo?
Ah si, aussi.
Aussi.
Aussi. Mais en fait, je crois que j'ai senti, sans le formuler à l'époque, parce que je venais pas de la cinéphilie. J'avais 11 ans. Et puis les années qui ont suivi, personne m'a parlé du cinéma d'auteur. Par les films de Truffaut, en particulier par celui dont on vient d'entendre un extrait,
Baiser volé.
Par Baiser volé, j'ai senti qu'un film était aussi et peut-être avant tout son réalisateur. Donc le premier dont j'étais amoureuse, quand j'étais amoureuse d'un film, le premier dont j'étais amoureuse, c'était le réalisateur ou la réalisatrice. Il y avait beaucoup plus de réalisateurs. Il y a toujours un peu, mais à l'époque c'était... Dans La Nuit américaine, dont vous avez passé un extrait, le premier, il y a une phrase du personnage joué par Truffaut, je crois, que j'ai tout le temps en tête, et qui est, alors, est-ce que je vais savoir m'en souvenir au mot près? Je crois pas. Il dit que les films sont comme des trains qui filent dans la nuit. Et quand je suis sur un tournage, quand je réalise, et que j'ai peur de plus voir parce que le manque de temps, parce que le manque d'argent, parce que la fatigue, parce que tout ça, je me dis, bah, c'est pas grave, je suis dans un train qui file dans la nuit, et on verra au montage.
Alors revenons, Noémie Lvovsky, à votre journée particulière. On est en septembre 82. Et comment... vous avez 17 ans, c'est ça?
J'ai 17 ans et demi, oui.
Vous avez eu le bac?
En juin.
En juin. Et comment vous arrivez sur ce plateau de tournage? Comment, par quel hasard vous arrivez sur ce plateau de tournage?
Complètement par hasard, oui. On était au collège et au lycée. On était une bande d'amis très, très, très soudés. Et il se trouve que certaines d'entre nous étaient livrées à elles-mêmes, quoi. Les parents n'étaient pas là et on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait. Et on a grandi comme ça. Et on a grandi ensemble. Et on a fait les 400 coups ensemble. On a pris des risques aussi. on s'en rend pas compte sur le moment. Et puis quand on est devenu adulte, on se dit, oh là là. Et l'une d'entre nous avait un grand cousin qu'on n'avait jamais vu, qui était un peu une figure pour nous, parce que c'était notre aîné de 5 ans, je crois. Et il était à l'école de cinéma, à l'IDEC. Et ce grand cousin a demandé à sa cousine de venir faire de la figuration sur un court-métrage, son court-métrage de deuxième année d'école. Et puis elle avait dit oui, d'accord. Et la veille au soir, elle se dit, oh là là, j'ai la flemme. Ouais. Elle a appelé une autre d'entre nous en disant, tu veux pas y aller à ma place? Ouais. La copine a dit oui, oui, oui. Et puis c'était très tôt le matin. Et très tôt le matin, elle m'a appelé. Je vivais chez mon père. Et elle m'a appelé. Elle m'a dit, pas le courage, tu veux pas y aller, toi? Et moi, j'étais réveillée. C'est juste que j'étais réveillée. Et j'ai été pour faire de la figuration. Il s'agissait de mettre des lunettes en forme de cœur.
Ah oui.
Et de s'accouder à une rambarde en haut d'une cage d'escalier. Et le grand cousin, c'était Eric Rochant.
Voilà, qu'on connaît aujourd'hui, qui est devenu très connu. Entre autres aussi grâce au Bureau des Légendes, pour ceux qui, oui, ne vont pas beaucoup au cinéma. Donc vous débarquez là, Eric Rochant. Vous voyez un plateau de cinéma, vous avez 17 ans et demi, et en 1982, est-ce que vous avez une idée d'une musique incontournable de l'année 82?
De l'année 82, ouais. Je ne saurais pas vous dire, je sais ce que j'écoutais dans ces années-là, mais...
Alors on y va.
Illusion.
Alors, Noémie Lvovsky,
on danse.
On danse, hein. Je vois que bon, vous avez sévi sur cette musique, non?
Oui.
Ouais. Alors, jusqu'à 15h, c'est votre journée particulière, Noémie Lvovsky. Quelle jeune fille vous étiez à 17 ans et demi, Noémie Lvovsky? Vous étiez comment dans la vie?
C'est vraiment difficile de se définir soi-même parce qu'on... comment j'étais?
Confiante?
Non, pas du tout confiante, pas du tout. Très, très, très perdue, très, très déprimée, je crois. J'avais terriblement peur de l'avenir, j'avais l'impression que je n'étais faite pour aucun métier, qu'aucun métier n'était fait pour moi. C'est-à-dire que j'avais envie de tout et je me sentais capable de rien et vraiment je me disais, je me faisais la liste des métiers et je me disais, mais non, je sens que j'ai envie de faire quelque chose, mais non, c'est pas ça.
Est-ce qu'on peut dire qu'en 1982, Noémie Lvovsky, la seule chose dont vous étiez sûre, c'était cette bande de copines-là, la vie et la mort, pour faire les 400 coups, toujours, à vos côtés?
Et hop, je jure de toujours penser à vous comme je voudrais que vous pensiez à moi. Je jure de jamais trahir ce serment. Voilà.
Ouais.
Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on parle ensemble. Je voudrais vraiment. Ouais, en même temps, là, on parle.
Bah ouais.
Ouais, mais ce que je voudrais, c'est qu'on soit proches. En même temps, là, on est proches.
Bah ouais.
Comment ça, proches?
Mais je sais pas.
Comment ça?
Je sais pas.
Qu'est-ce que je suis pour toi?
Qu'est-ce que t'es pour moi?
Ouais.
Bah, t'es mon amie.
Ouais, on est amis, c'est bien. Non, mais ouais, c'est génial.
Bah ouais, pareil pour moi.
Ouais.
Bah ouais.
Je sais pas. Je voudrais qu'on fasse notre vie ensemble, c'est con.
Noémie Lvovsky, vous êtes émue à vous réécouter, parce que ça c'est un beau film, c'est petite, non, ça vous émeut.
C'est pas de me réécouter qui m'émeut, c'est de retrouver les voix des quatre comédiennes qui sont extraordinaires, qui sont aujourd'hui des adultes. Elles doivent avoir 35 ans passés aujourd'hui. On a tourné ce film petite en 97. Et elles sont merveilleuses. Alors quand je les entends là, quand je les réentends là, grâce à vous, merci, parce que je revois pas les films. Je suis épatée par leur sensibilité, par leur générosité, par leur talent, alors qu'elles jouaient pour la première fois. Quoi. Elles sont extraordinaires. Et elles m'ont donné énormément. Quoi. Et je retrouve le rythme hyper rapide comme ouais. Ça de Julie Marie Parmentier, ouais. le l'ultra sensibilité de Magali Vogue, l'humour de Camille Rousselet. Il y avait Ingrid Molinier aussi. C'est des comédiennes extraordinaires.
Et c'était la première fois qu'elle jouait. Et vous, votre première fois, Noémie Lvovsky, c'est quand vous arrivez sur ce plateau de tournage, vous y faisiez de la figuration avec des lunettes en forme de cœur pour un court-métrage d'un jeune étudiant de l'IDEC qui s'appelait Éric Rochant et que personne encore ne connaissait. Pascal Ferrand était la script, c'est ça, sur ce court-métrage?
Oui, Pascal Ferrand était là.
Et derrière la caméra, il y avait...
Arnaud Desplechin.
De Roubaix, vous êtes monté à Paris pour faire l'IDEC?
Bah, ça peut vous sembler naïf, mais c'est parce que je voulais faire du cinéma, quoi. Mais je ne savais pas du tout comment ça se faisait techniquement, quoi. C'est-à-dire, je croyais qu'il y avait, par exemple, un réalisateur et un metteur en scène. Je ne savais pas très bien ce que faisaient l'un et l'autre, mais donc je savais que j'avais envie de travailler dedans, mais sans savoir exactement comment ça marchait, quoi.
Et rétrospectivement, quels ont été les avantages d'une école pour vous et quel danger auquel vous avez échappé?
Bah, ce qui était vraiment bien, c'est qu'on faisait tous des films, on tournait tout le temps. Alors d'abord, ce qui est bien, c'est qu'on travaille à tous les postes, quel air idiot, mais on apprend énormément de choses, quoi, à faire le machiniste, l'électricien, des trucs comme ça. Et surtout, on était on était tout le temps ensemble, c'est-à-dire qu'on traînait à 20 toute la journée, enfin à 20 plus les autres promos, donc on était à 40 tout le temps et on pouvait vraiment ne plus faire que ça, quoi. Donc du coup, ça fait pas un film tout seul où on est obligé de dire du bien, c'est qu'on peut se balancer les uns les autres, on est très dur avec nous. Alors ça c'est très vivant, quoi.
Il est deuxième année, une première.
Noémie Lvovsky, vous avez reconnu, c'était la voix de Arnaud Desplechin, donc en 1992, qui revenait sur ses années IDEC. Alors racontez-moi, vous êtes là, vous arrivez sur ce tournage, vous avez 17 ans et demi, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Pourquoi c'est votre journée particulière? Celle qui a bouleversé votre vie?
Ça, je suis arrivée, j'ai monté un escalier, je suis arrivée au dernier étage, là j'ai découvert une équipe de cinéma, je savais pas du tout qui faisait quoi.
Ouais.
Parce que je ne savais pas du tout comment on fabriquait un film, j'avais jamais vu un plateau et voilà, donc je suis arrivée, bon, on m'a mis un vêtement, je crois, et puis ces lunettes en cœur qui ne m'allaient pas du tout, j'étais beaucoup trop ronde pour avoir l'air d'une Lolita. Parce que je devais figurer une Lolita. Et puis on me dit, ben voilà, tu t'accoudes à la rambarde et puis tu poses ta tête dans ta main. Je faisais ça avec l'air un peu vide et en même temps j'avais toutes les antennes sorties,
ouais,
pour observer les gens et la caméra et l'ingénieur du son planqué dans un coin et essayer de comprendre, de décoder ce qui se passait. Et puis il y avait que j'ai senti très très vite que les gens qui étaient là sur le plateau étaient des gens extraordinaires. Et puis il y avait aussi que je crois que c'était une période jusqu'à ce jour assez déprimée pour moi.
Ouais.
J'étais vraiment terrifiée de devoir entrer dans le monde adulte.
Et là, vous avez eu moins peur sur ce plateau, sur ce tournage d'un seul coup?
Bah, je sais pas si j'ai eu moins peur, mais en tout cas, je découvrais un endroit où on fabriquait quelque chose ensemble, en équipe, et c'était très réveillé, quoi.
Réveillé?
Bah, ils étaient tous très réveillés et ils m'ont réveillée. Oui. Et puis je découvrais toute l'ingénuité dont on a besoin pour faire un film, quoi. Des choses aussi bêtes que de mettre un volet pour couper un ray de lumière,
ouais,
ou de mettre un cube pour rehausser un acteur. Enfin, voilà. Je découvrais que c'était qu'on fabriquait aussi un film avec du bon sens et de l'ingénuité, et ça c'était un plaisir.
Ça a été un coup de foudre?
Plusieurs coups de foudre, oui. Oui. un coup de foudre pour la fabrication de films. Et donc ce jour-là, de voir, j'ai eu de la chance.
Ah bah quelle chance, parce que quand même premier tournage Rochant, Desplechin,
plateau de cinéma.
Bah non.
C'était des gens, enfin ce sont toujours des gens vraiment extraordinaires d'énergie, de vivacité, d'intelligence, de
fou de cinéma,
d'amoureux des films.
Ouais.
Et j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur eux.
Ouais, tout de suite vous êtes ça a été un coup de foudre pour eux aussi, pour Pascal Ferrand, Arnaud,
oui,
Desplechin, Éric Rochant. Ben,
je crois que ça a été avant tout un, c'est-à-dire je les regardais et je me disais ce que dit Magali Vogue dans l'extrait de Petite qu'on a entendu tout à l'heure. Je me suis dit, le jour même, c'est-à-dire j'ai même pas attendu d'avoir fait connaissance, c'est en ça que c'était un coup de foudre. Je me suis dit, je voudrais les connaître toute ma vie.
Comme dans le film, comme dans votre film. Alors quand vous avez compris que la journée, cette journée de septembre 1982, Noémie Lvovsky allait se terminer, ça devait être terrible, parce que cette journée devait avoir une fin.
Je voulais pas qu'elle se termine, je voulais pas, je me disais, mais comment je fais pour les revoir? Il y a aussi eu qu'à un moment dans la journée, j'ai vu arriver un garçon habillé tout en noir, il venait pour faire de la figuration lui aussi, et il était habillé tout en noir, avec très brun comme ça, avec une barbe d'une semaine, parce qu'il devait figurer un mafieux.
Ouais.
Voilà. Et je me souviens, vraiment, j'ai dans l'œil, j'étais tout en haut de cet escalier, accoudé à la rambarde, et lui, il montait l'escalier, donc je l'ai vu en contre-plongée. Et j'ai eu un coup de foudre. Les coups de foudre s'accumulaient. J'ai eu un coup de foudre amoureux.
Donc trois coups de foudre successifs ce jour J de septembre 82. Malheureusement, la journée allait se terminer.
Oui.
Mais heureusement pour vous, alors, il y avait une fête de fin de tournage.
Alors je me disais, mais comment, il faut que je les revoie. Il faut absolument que je les revoie. Et j'entends qu'il va y avoir une boum.
Ouais.
Une boum de fin de tournage. Et je me débrouille, je ne sais plus comment, je crois que c'est pas... Il y avait un garçon aussi qui s'appelle Stéphane Twitou, et qui était le plus accessible, celui auquel j'avais le plus parlé dans la journée. Et je crois que j'ai été insistée auprès de Stéphane Twitou pour être invitée à cette boum. Et ensuite, je ne vivais plus que... C'était pas le lendemain, la boum, c'était quelques jours... plus tard, et je ne vivais que pour cette boum.
Genre, comment je vais me coiffer?
Ah oui, comment je vais me coiffer, comment je vais m'habiller, je me maquille pas, je me maquille un peu, mais pas trop.
Est-ce que celui à la barbe d'une semaine sera là?
Oui.
Est-ce qu'il me verra?
Oui.
On écoute Éric Rochant parler de la fête.
C'est le lieu de la séduction, la fête. C'est le lieu où on séduit les gens, où on fait croire à n'importe quoi. Le temps d'une soirée, la lumière c'est pas la même, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même son puisqu'il y a de la musique très fort, ça discute dans tous les sens, un verre à la main, on est un peu saoul, donc on peut vraiment se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et en général c'est ce qui arrive, donc les lendemains de fête, c'est genre le retour à la réalité, en général quand on a une aventure par exemple. C'est pas pour rien parce que c'était pas le même monde, quoi. Les lendemains de fête c'est un autre monde, c'est le monde de la réalité, en général c'est le bordel un peu, quoi.
Et ça, c'est une de vos chansons préférées, hein, Noémie Lvovsky. Vous dansez là-dessus avec vos copines dans vos films, avec votre bande.
Oui. Ça, c'est dans Camille Redouble.
Ouais, c'est dans Camille Redouble. Et c'est. Oui, c'est dans Camille Redouble. Vous avez dansé cette soirée-là, c'était magnifique.
J'ai beaucoup dansé. Enfin, je dansais beaucoup, beaucoup à l'époque. Je dansais dans les booms.
Ouais, ouais.
Je pouvais. Je trouvais. C'est beau d'entendre Eric parler de.
De la fête.
De la fête, oui. Parce que en fait, dans les. J'allais pas du tout en boîte de nuit. C'était les fêtes, les boums, ouais. qui me plaisaient. Et pour moi, le grand plaisir des booms, c'était de pouvoir. On pouvait pas beaucoup parler parce que la musique était trop forte. Il s'agissait pas de parler. Et comme dit Rochant, il s'agissait de regarder, d'être séduit, de se laisser séduire, et puis de danser. Mais je pouvais danser des heures et des heures et des heures et des heures, et je me disais, ça c'est une des vraies choses de la vie, quoi, d'arrêter de parler. Je vous dis ça, alors je ne fais que vous que parler depuis, mais oui, d'arrêter de parler et de danser, c'était. Et donc à cette boum, à cette fête de fin de tournage, c'était, oui, j'ai dansé, j'ai regardé si j'étais regardée par les garçons, par le garçon habillé tout en noir.
Et puis votre vie n'a plus jamais été pareille.
Non.
Après ça, c'était une autre vie. Alors, il y aura après cette journée de septembre 82 des dizaines et des dizaines de tournages et du plaisir, peut-être même de la passion à vivre ces moments-là. Sur le tournage, une archive.
Jean Renoir et Michel Simon, il y a bien longtemps que nous espérions vous réunir au micro. Et comme Boudu sauvé des eaux est sans doute un des plus merveilleux films qu'on ait jamais fait en France, c'était une occasion de vous demander de vous retrouver à l'occasion de Boudu sauvé des eaux.
Quelle aventure, non, quelle aventure.
Enfin, bien sûr.
Parce qu'on a eu du plaisir à le tourner. On était heureux quand on le tournait.
On a eu du plaisir.
Après.
Mais Michel,
le public et la critique.
Mais d'accord, mais c'est, je crois que toute œuvre d'art, à peu près défendable, à peu près correcte, est comme ça. Oui. Le plaisir, on jouit pendant qu'on le fait.
Oui.
Après, ça n'a pas d'importance, ça en a beaucoup moins. Ça en a un peu parce qu'il faut bien essayer de faire d'autres films. Alors, il vaut mieux que ça rapporte un petit peu d'argent. Ça convainc les gens de nous en redonner pour une autre histoire. Oui. Mais sans ça, la vraie jouissance de l'artiste, c'est pendant qu'on fait, qu'on crée.
Et le tournage, vous l'avez fait dans la gaieté, vous entendiez bien ?
Oh oui.
Dans la passion.
Dans la passion.
Alors ça, c'est une archive de 1966, Noémie Lvovsky. Michel Simon, Jean Renoir, interviewé par Michel Pollack. On trouvait que ça pouvait résonner avec ce que vous disiez sur la fabrication du film, le plaisir, la jouissance pendant qu'on fait. C'est ce que vous découvrez en septembre 82.
Oui, je connaissais pas cette archive. C'est magnifique de les entendre tous les deux, Michel Simon et Jean Renoir. Et c'est fou, enfin c'est drôle parce que souvent quand on me parle de plaisir à jouer ou à écrire ou à réaliser, j'acquiesce. Mais il y a un mot que j'ose pas prononcer. En fait, j'ose pas dire que c'est plus fort que du plaisir, parce que même dans les moments, parce qu'il y a aussi des moments difficiles, il y a aussi des moments douloureux. Et on ne peut pas appeler ces moments des moments de plaisir. Et j'ose pas dire qu'il s'agit de jouissance. Et là, d'entendre Renoir le dire, ça m'autorise.
Maintenant, vous pourrez le dire, hein, Noémie Lvovsky.
Et à un moment, Michel Pollack parle de gaieté. Et je crois que c'est Michel Simon qui répond passion.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est le plaisir et la gaieté, alors qu'il y a quand même des, enfin, alors que réaliser un film, ça peut être épuisant. Il y a des moments de plaisir et des moments de grande gaieté. Et puis, il y a des moments d'épuisement, de découragement, mais ces moments-là sont portés par la passion, comme dit Michel Simon, et par une jouissance à travailler.
Bien, tu vas rentrer dans ta chambre, hein. Tu vas relire le scénario. Tu vas travailler un petit peu et tu vas essayer de dormir. Hein. Demain, c'est le travail, mais le travail est plus important. Ne fais pas l'idiot, Alphonse. Tu es un très bon acteur, le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Des gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut, Alphonse, je compte sur toi.
Noémie Lvovsky, 1982, Cure. J'imagine que vous avez dansé aussi comme une folle sur Cure.
Oui.
Obligée en 1982, on ne pouvait pas passer à côté. Vous aviez en 1982 un appétit d'ogre pour tout, pour vos amis, pour la vie, pour le cinéma.
Pour tout, je ne sais pas. En tout cas, oui, pour mes amis, pour l'amour. En tout cas, oui, j'avais très très envie et besoin
d'amour
et pour le cinéma, oui.
Et pour le cinéma.
Zoé Varier, une journée particulière sur France Inter.
que vous avez appris cette journée de septembre 82 avec Arnaud Desplechin, Rochand, Pascal Ferrand? Qu'est-ce que vous retenez de ce jour-là?
Bah, ce jour-là, je les ai rencontrés, j'ai fait connaissance avec eux. Et puis après, c'est au fil du temps que j'ai énormément appris avec eux. Tout à l'heure, on écoutait Arnaud Desplechin qui, en 92, parlait de ses années d'école. Ce qu'il disait résonnait très fort en moi parce que j'ai beaucoup appris auprès de lui. Et je pense qu'une des, peut-être une des choses les plus précieuses que j'ai apprises en le regardant travailler, en essayant de l'accompagner, en travaillant avec lui aussi sur La Vie des Morts et sur La Sentinelle, au scénario, au casting, comme script. J'étais une script déplorable sur La Vie des Morts. c'est qu'il ne faisait pas de hiérarchie entre, il savait à quel point tout participe de la fabrication d'un film. C'est-à-dire.
Chaque personne.
Tous les postes sont, et il faisait pas de hiérarchie entre les postes. Et ça nous amenait, on passait des heures et des heures à parler de cinéma au café. Et il y avait une chose très très importante pour nous quand on était, enfin, qu'il est toujours au fond, mais on passe moins d'heures au café. On se disait que nous, on aimait ce que le cinéma avait d'impur, dans le sens où on aimait que le cinéma soit à la fois du musical, du théâtre, du cirque, de la musique et de la littérature. On se retrouvait là-dessus.
Ouais.
Et c'était très lié aussi au fait que j'avais pu voir Arnaud attacher autant d'importance au travail de l'ingénieur du son qu'au travail du musicien du film, qu'au travail du machinot qui allait pousser le travelling, et il fallait qu'il le pousse de façon très souple pour que le travelling n'ait pas d'à-coup. Il savait, il m'a appris à quel point le talent de chacun, y compris de ce qu'on appelle les ouvriers du cinéma, l'électro et le machinot.
D'accord, je comprends ce que vous êtes en train de dire, Noémie Lvovsky, c'est que ça vous a nourri et que ça vous nourrit encore de l'avoir rencontré cette journée de septembre 82, Arnaud Desplechin.
Oui.
Et que tout ce qu'il est a fait que vous êtes devenue aussi la femme que vous êtes aujourd'hui, la cinéaste, oui, et la réalisatrice que vous êtes aujourd'hui.
Je voudrais que vous mouriez jamais. Jurez-moi de jamais mourir.
Non, enfin...
Allez, jurez. Jurez.
Voilà, bon, alors, je jure de ne jamais mourir, voilà. Allez, jure, toi aussi.
Je jure de ne jamais mourir.
Très crache.
Oh. J'irai cracher.
Ouais, voilà, on est immortel maintenant. T'as mieux?
Et si on disait une prière? Une
prière? Mais ça va pas.
Pas une vraie prière, une chanson.
Bon, une chanson. Quelle chanson?
La petite cantate. Je vais chercher mon magnétophone. Oh non.
Tu trouves qu'on se laisse trop faire?
Bah, surtout toi.
Une petite cantate, tu... Ou des doigts obsédantes et maladroites montent vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, soumis la raison d'enfant. Cette petite cantate, farisol d'enfant, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, similaire et seul dauphin.
Voilà.
C'est magnifique, hein, vous avez raison, c'est bien la radio aussi. Hein. Alors c'est un extrait évidemment de Camille Redouble. J'ai choisi celui-là, Noémie Lvovsky, parce que... vous parliez de vous, de votre naissance, de ce qui vous a nourri, de la réalisatrice, de la cinéaste que vous êtes devenue. Et le temps, vous interrogez le temps, tout le temps. Vous interrogez la disparition, vous interrogez ce qui passe. Là, dans cette séquence, la jeune fille, vous, qui vient d'avoir 16 ans et qui ne veut pas que sa maman meure et qui veut garder des traces de ses parents qui vont disparaître, enregistre les voix. Je voulais que vous me parliez de ça, de ce temps que vous interrogez et que vous voulez tenir.
Oui, le cinéma peut-être, l'attrape le temps, ou en tout cas essaie de l'attraper. Il y a quelque chose pour moi dans le fait de filmer, et aussi de regarder les images en mouvement.
Ouais.
En tout cas, dans les images en mouvement, il y a peut-être quelque chose pour moi qui attrape ce qui est déjà parti quand on le regarde. Donc il y a quelque chose forcément un peu lié à la mort. Et puis il y a aussi quelque chose d'extraordinairement vivant parce que l'instant insaisissable est saisi par la caméra, quelque chose comme ça.
Quelque chose comme ça.
Oui, à la fois lié à, extraordinairement vivant et lié à la mort dans le cinéma. Et j'écoutais cet extrait de Camille Redouble et je me disais, ouais, c'est quand on grandit, on nous apprend l'ordre des choses. Alors dans l'ordre des choses, il y a qu'on doit partir après ses parents, donc on doit voir ses parents partir. On nous apprend que ça, c'est l'ordre des choses. On essaye de nous apprendre à l'accepter. Et puis, on vivrait pas si on l'acceptait pas. Et pourtant, il y a quelque chose d'inacceptable.
Ouais, je suis d'accord.
Et voilà, je crois que c'est un sentiment de comme ça que j'ai essayé d'attraper en écrivant, en réalisant et en jouant cette scène.
La perte inacceptable, le départ inacceptable, la mort de ce qu'on aime inacceptable.
Mais Camille les enregistre. C'est, en fait, la Camille du présent, elle les a pas enregistrées. Et puis quand elle retourne dans son passé, quand elle vit un deuxième passé, elle peut pas changer les grandes choses, mais elle peut changer des toutes petites choses. Et parmi les toutes petites choses qu'elle parvient à changer, c'est qu'elle aura une trace de la voix de ses parents.
C'est ça, de garder une trace.
Et la voix, on est à la radio, ouais. Vous en savez quelque chose. La voix est sans doute ce qu'il y a de, je sais pas, de plus... Enfin, c'est vraiment la personne, la voix.
Alors, on va écouter encore un de vos films.
Ben, d'abord, il me proposerait d'aller boire un café après les cours. On irait un peu loin du lycée, dans un café où il n'y a personne qu'on connaît.
Et ensuite ?
On irait mettre une chanson dans le jukebox.
Non, ce serait un café, il n'y aurait pas de jukebox. Il n'y aurait presque personne. On parlerait très longtemps.
Vous parleriez de quoi ?
De plein de trucs. On se raconterait des trucs sur nous. On parlerait de sujets vachement graves, on s'apercevrait qu'on pense la même chose. Et puis, il me raccompagnerait jusque devant chez moi.
Et tes parents seraient pas là ?
Ma mère est toujours là.
Bah, pour une fois, elle serait pas là.
Bah, il y aurait quand même mes frères.
T'es chiante, t'es amoureuse de lui ou non ?
Bon, il n'y aurait personne chez toi. Alors il entrerait.
Et puis
Il irait dans ma chambre, mettrait des disques.
Et après
prendrait la main. Et puis on s'embrasserait et puis on ferait l'amour. Voilà, je l'ai dit, vous êtes contente. Mais vous êtes vraiment des obsédés. Il y a des choses plus importantes que s'embrasser.
Tout à fait d'accord avec toi.
Ok, et quoi? Moi, ce que je voudrais, par exemple...
C'est quoi? Allez, dis-le nous.
Et, par exemple, lui mettre ses mains, comme ça. Juste comme ça, c'est tout.
Vous riez, hein?
Oh ben oui, c'est comme... Elles sont tellement... merveilleuse. Là, c'était Camille Rousselet qu'on entendait.
Petite encore.
Oui, c'était dans Petite. Camille, elle avait 14 ans et demi, je crois, quand elle a joué cette scène.
Et là aussi, on retient. Vous voulez retenir. On est tous touchés. On se rappelle tous de nous, de cette première fois rêvée. Ça aussi, c'est le temps.
Ah oui.
C'est la jeunesse, l'émerveillement, l'espoir, la promesse. Oui. Vous filmez la promesse. Vous retenez la promesse.
J'espère, j'aimerais. C'est vrai que je me le formule peut-être plus facilement aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 22 ans, quand on faisait ce film. Mais formulé ou pas, ça a toujours été là, cette obsession pour le temps, pour les couches de temps, les âges. Le temps qui passe et la perte. Je crois que de film en film.
Est-ce que le cinéma peut aider à vivre, apprendre à vivre?
Ah oui.
Nous aider à...
Ah oui. Mais pour moi, le cinéma, le spectacle, et le cinéma en particulier, nous... Non seulement nous aide à vivre, mais nous apprend la vie, nous la révèle. Et je l'ai senti très tôt comme spectatrice, et des choses comme ça très très importantes, existentielles, et comme des choses plus apparemment triviales. Et c'est ça qui est... Par exemple, je pense à trivialité parce que devant certains films, quand j'étais enfant, je me disais, ah, et je repérais un vêtement, je me disais, peut-être si je porte le même vêtement, ou bien je regardais beaucoup Jean-Pierre Léo, par exemple, dans les films de Truffaut, et je le trouvais extraordinairement séduisant, alors qu'il est bizarre.
Ouais, bizarre.
On ne sait pas du tout un acteur, qui est dans les stéréotypes de, je sais pas, de l'ultra-virilité, de la, voilà, et pourtant c'est un des hommes les plus séduisants du monde, et je me disais, tiens, je vais peut-être, si j'emploie tel mot qui me venait de lui et de Truffaut qu'il avait écrit, je serais une femme meilleure,
comme quelque chose de magique.
Non, c'était pas de la superstition, c'était le besoin d'imiter.
Quelle drôle de façon de faire elle.
J'ai vu faire ça dans un film. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
Le lit était muet pourtant, à peine froissé les draps blancs, mais j'avais oublié que tu m'aimais. Pas de signe d'emportement, ni de regard au firmament. Oui, j'avais oublié que tu m'aimais autant. Dans les ruelles abandonnées, dans l'enclos ouvert à tout vent, j'avais laissé filer quelque chose d'évident. C'était perdu dans les fossés, égaré dans l'herbe des champs. Oui, j'avais oublié que tu m'aimais autant. Oui, j'avais oublié.
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Alors c'est bientôt la fin de l'émission, Noémie Lvovsky. Et pour toujours, pour clore cette émission, je reviens sur certains événements qui ont eu lieu l'année de votre journée particulière, donc pour vous l'année 1982. Et figurez-vous que l'année 1982 commence, et ça résonne fort avec l'actualité, avec l'entrée en application de la loi sur l'impôt sur la fortune.
Il convient que l'impôt sur les grandes fortunes ne sera jamais plébiscité par les détenteurs des grandes fortunes. Mais la réforme fiscale voulue par le pays, qu'on le veuille ou non, est en marche, et il importe qu'elle soit efficace et juste.
Alors, Fabius, on vient d'entendre Laurent Fabius qui était ministre délégué au budget. C'était donc en 1982. En janvier 82, le temps de travail hebdomadaire est réduit à 39 heures. Les salariés obtiennent une cinquième semaine de congés payés. Les grandes entreprises françaises et les grandes banques sont nationalisées. L'homosexualité est dépénalisée.
Ça, je m'en souviens.
Ça, vous vous en souvenez?
Il y a deux choses qui m'ont fait éprouver très fort que la vie était plus pareille et qu'elle devenait meilleure. C'est la dépénalisation de l'homosexualité et l'abolition de la peine de mort.
Ouais, c'est ça. Mais l'instant, c'est les années Mitterrand. Le début de Mitterrand.
Oui, je me souviens que, en fait, on savait à peine que l'homosexualité était un délit.
Non.
Mais on le savait.
Ouais.
C'était, voilà, comme une chose, c'est quelque part dans un texte de loi, et la société se faisait croire que, bon, qu'on pouvait très bien vivre comme ça. Or, non, on pouvait pas très bien vivre comme ça. Aujourd'hui, quand j'entends une jeune fille me dire ma copine et un jeune homme me dire mon copain, c'était impossible.
Impensable.
Y compris dans, j'étais au lycée Rodin, qui était considéré comme un lycée très à gauche. Je n'ai aucun souvenir d'un garçon ou d'une fille vivant ouvertement son homosexualité. Et ça a été une libération, y compris pour les hétéros, que la dépénalisation de l'homosexualité. Enfin.
Alors en 1982, il y a le cinéaste allemand Rainer Fassbinder qui disparaît.
Ouais.
Et aussi, ça résonne peut-être d'une certaine façon avec l'actualité. Le 9 août 1982, le restaurant Goldenberg, rue des Rosiers à Paris, est la cible d'un attentat qui fera 6 morts et 22 blessés. Hmm. 82, c'est aussi le massacre de Sabra et Shatila. Vous vous souvenez de tout ça, en arrière-fond, comme ça?
Oui, en fait, c'est plus tard que j'ai connu les films de Fassbinder. Donc je ne me souviens pas de sa mort. Je me souviens de l'attentat de la rue des Rosiers. Et je me souviens du massacre de Sabra et Shatila. Si on parle de ça, on est parti pour quelques heures.
Mais on le mentionne.
Ben oui.
On le dit comme une récurrence.
Ouais.
Plus léger, en 1982, on découvrait le Minitel.
Oh oui.
Le sifflement m'a dit que je suis connecté au service et j'appuie sur une touche de façon à avoir devant moi le formulaire que je vais remplir. Je vais chercher le numéro d'un abonné qui s'appelle Yves Lozac à Brest. Je donne donc son nom. Je tape deux fois sur la touche suite de façon à pouvoir remplir la rubrique localité, Brest. Il est inutile de fournir le département. Le service est capable de savoir que Brest est dans le Finistère et je donne le prénom Yves. Mon formulaire est rempli, j'appuie sur la touche Envoi. Et j'ai devant moi trois abonnés s'appelant Yves Lozac à Brest, ainsi qu'un Lozac Y dont nous ne connaissons pas le prénom entièrement.
Noémie Lvovsky, est-ce que vous savez qui est ce Lozac avec un Y?
Non. Elle est formidable, cette archive. Elle est drôle, c'est drôle.
C'est drôle, 1982.
Ouais.
On fait des progrès. On a fait, on a plus
vite. Des progrès incroyables. Je me souviens de l'arrivée du Minitel. Et je me souviens de comment ça a été un énorme changement. Moi, j'ai jamais réussi à utiliser beaucoup le Minitel. Mais ça a été un énorme changement pour des copines qui étaient, j'ai des souvenirs, j'étais terrifiée pour elles parce que, elles étaient très, très, très complexées. Et elles n'arrivaient pas à parler aux garçons. Et elles se trouvaient beaucoup trop vieilles pour être encore pucelles. Et nous, comme on avait, nous, ma bande et moi, comme on avait fait les 400 coups, ça faisait...
C'était réglé.
Ça faisait bien longtemps. Et je me souviens de deux copines qui ont pris la décision au moment de l'arrivée du Minitel de faire une rencontre par Minitel.
Ouais, sur messagerie.
Et leur plan, c'était je me ferais dépuceler par cette rencontre sur Minitel. Je les suppliais de pas faire ça.
Maintenant, ça semble rien du tout. Hein. Franchement, le temps est passé encore là. Hein. Alors pour finir cette émission, on vous a préparé un joli petit cadeau. C'était en 1982, Jean-Luc Godard présentait son film « Passion » au Festival de Cannes et acceptait de répondre à quelques questions.
Jean-Luc Godard, vedette du Festival de Cannes, aujourd'hui il concourt sous les couleurs suisses. « Passion », son dernier film, est notamment interprété par Isabelle Huppert, Michel Piccoli et l'actrice polonaise Anna Sigula. Après avoir longtemps boudé la croisette, Jean-Luc Godard est en passe d'en devenir presque un habitué. Sophie Dumoulin, ce matin, a rencontré celui qu'on pourrait appeler l'enfant terrible du cinéma français. Jean-Luc Godard lui parle d'abord de sa présence à ce festival.
Moi, quand je vais au cinéma, je ne cherche pas à savoir pourquoi la Terre tourne. Et ni Verneuil, ni Alain Delon me le dit. Mais je vois pas pourquoi on cherche à savoir ça de moi.
Le mot lumière revient effectivement très souvent dans la bouche de ce metteur en scène. C'est une de vos préoccupations?
Dans la vie, il faut bien éclaircir les choses, éclairer les problèmes, et trouver une solution. Je trouve le cinéma est une bonne métaphore de la réalité, parce que c'est... La pellicule, c'est la terre, le soleil, c'est la lumière, et nous, on est entre les deux.
Alors, vous avez quelque chose à répondre, Noémie Lvovsky?
À répondre, non, je vais pas, non, pas à répondre, mais je me souviens que ce garçon dont je vous parlais, qui venait faire de la figuration...
Avec la barbe d'une semaine.
Ce jour de tournage, oui, avec la barbe d'une semaine et habillé tout en noir, m'a énormément plu aussi, parce que il adorait le cinéma, mais il n'avait pas une culture de cinéphile. Il débarquait du Brésil et il me disait, oh là là, il y a un film magnifique, j'ai été le voir 7 fois. Je lui demande comment s'appelle ce film, il me répond Passion. Il savait pas qui était le réalisateur. Je trouvais ça magnifique qu'il puisse aimer Passion, aller le voir 7 fois et pas parce que c'était Jean-Luc Godard. Il reconnaissait Jean-Luc Godard sans savoir qui était Jean-Luc Godard. Et ça a été une des très grandes premières émotions qu'il m'a données. Et puis Godard, que je n'ai jamais rencontré. Alors en fait, c'est grâce à lui qu'un producteur est venu me trouver quand j'étais encore à l'école de cinéma. Et très jeune, je devais avoir, 25 ans, je crois. À l'époque, les courts-métrages passaient en salle, étaient diffusés en salle avant les longs-métrages. Ouais. Et j'avais réalisé un court-métrage, il passait avant un film de Philippe Faucon,
ouais,
qui s'appelle L'Amour. Et Jean-Luc Godard a vu ce court-métrage, qui s'appelle Dis-moi oui, dis-moi non, avec Valéria Brunetteschi. Ouais. Et Emmanuel De Vos, entre autres.
Vos copines.
Et voilà, il a été trouver son producteur et il lui a dit, il faut produire cette fille. Et je ne sais pas pourquoi j'ai jamais osé le remercier.
Pas de regret. Formidable, la boucle est bouclée, Noémie Lvovsky. Cette année 1982 nous fait arriver à Godard, tout naturellement. Merci d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci à vous.
En ce moment, vous êtes à l'affiche de 2 films. Vous êtes à l'affiche des Invisibles, qui est un très joli film de Louis-Julien Petit, et des Estivants de Valéria Bruni-Tedeschi. Ouais. Merci à Françoise Bonnet, qui est la responsable des partenariats cinéma ici à France Inter, de m'avoir aidée à vous contacter, Noémie Lvovsky. C'était une journée particulière, une émission préparée par Rebecca de Nantes, Alina Anne Delaveau à la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard et à la technique Julien Dumont. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster et réécouter et podcaster toutes les émissions sur le site de France Inter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, après le flash, on retrouve Vincent Josse et son grand atelier. À la semaine prochaine.